Les revenus sont trop faibles. Et moi, je veux parler à la France qui travaille. Celle qui a un métier, qui a un appartement, qui a une famille, qui a une voiture, qui travaille dur et qui trouve pourtant qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. C'est à cette France-là que je veux m'adresser.
Après.
Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Ou que je donne des ordres à des entreprises à qui j'ai pas à donner d'ordre? Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on parle pas de la même chose. Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde.
Voilà, on va commencer avec le panier de la ménagère. On va commencer avec le panier de la ménagère. C'est en tout cas comme ça que commence le diplôme de ce mois de juin, avec les conséquences sur ce panier, c'est-à-dire les colères populaires. C'est le titre de l'édito de Serge Halimi. Ils sont en train, avec Martine Bullard, de se faire des signes en disant « c'est à toi, on va commencer par Serge ».
Non, c'est juste pour rappeler que comme nous sommes aussi un mensuel féministe, nous n'employons pas l'expression « panier de la ménagère », mais l'expression « panier de consommation ».
Exactement. On peut penser que les ménagers aussi font leurs courses, hein.
D'accord.
N'est-ce pas ?
Très bien, très bien. Alors, Serge.
Oui, alors... On a beaucoup évoqué l'augmentation des prix des produits alimentaires, l'augmentation des coûts de transport pour des millions, voire des centaines de millions d'habitants un peu partout, en Europe, aux États-Unis, dans les pays du Sud. Ce qui me paraissait intéressant de souligner, c'était à quel point ces modifications avaient maintenant des effets politiques, puisqu'un peu partout, les coalitions au pouvoir sont affaiblies par leur gestion de la crise économique. On l'a vu en Europe, où un certain nombre de gouvernements sortants ont été soit balayés, soit très affaiblis lors des élections. On l'a remarqué il y a peu de temps en France et aussi au Royaume-Uni. Et ça s'est produit de manière qui a été moins soulignée aux États-Unis, où lors des derniers mois, lors de trois élections partielles, des sièges qui étaient aussi sûrs pour le Parti républicain que Neuilly ou le 16e arrondissement le seraient pour l'UMP, ont basculé dans le camp démocrate en Louisiane, en Illinois et dans un troisième État dont j'ai oublié le nom ici, mais par des scores assez impressionnants qui manifestent que le mécontentement est grand. Alors évidemment, il y a des tas de causes conjoncturelles qu'on peut invoquer, l'augmentation du prix des céréales, l'augmentation des prix de l'énergie, mais je crois que plus fondamentalement, ce qui se passe, c'est ce qu'a évoqué l'ancien ministre des Finances américain Lawrence Summers récemment dans un article du Financial Times, quand il a expliqué que ce qui est bon pour l'économie mondiale et les champions du business ne l'est pas nécessairement pour les salariés. Vous vous souvenez, pendant très longtemps, on se disait que quand l'économie allait, évidemment, tout le monde en bénéficiait, plus ou moins bien. Là, maintenant, il y a une espèce de tête-à-queue historique que Summers qualifie de découplage peut-être inévitable entre le monde des affaires et celui des nations. En d'autres termes, les gens qui ont les positions dominantes dans l'économie bénéficient au maximum de ces positions dominantes et redistribuent de moins en moins leurs avantages, à vrai dire, ont tendance à accaparer une part croissante de la valeur ajoutée. Et ce qui me paraît frappant dans cette évolution, qu'on détaille beaucoup plus longuement dans un numéro de manière de voir titré la planète des riches, c'est que maintenant, effectivement, les revenus des gens les plus favorisés, ça n'est pas seulement une question qui intéresse les sociologues, mais c'est vraiment une question qui intéresse les économistes. On se souvient que pendant des années, on disait « Mais si on redistribuait la fortune des milliardaires, qu'est-ce que ça rapporterait à chacun d'entre nous? Ils sont tellement peu nombreux et ceux d'entre nous qui gagnent beaucoup moins qu'eux sont tellement nombreux, au contraire, que finalement, chacun bénéficierait de quelques miettes. » Là, à l'heure actuelle, les milliardaires restent assez peu nombreux, encore que leur nombre augmente, mais leurs fortunes deviennent tellement impressionnantes qu'une redistribution de leurs revenus aurait vraiment des effets sur une partie tout à fait appréciable de la population. Et ce que je voulais évoquer dans l'édito du Monde diplomatique de ce mois-ci, c'est que, au lieu de souligner cette donnée qui me paraît être une donnée à la fois structurelle, économique et sociale, on ne cesse, face à la situation qu'on connaît, d'avancer des palliatifs qui n'ont pas une grande signification, genre Sarkozy qui dit il faut qu'il y ait davantage de concurrence entre les supermarchés, comme ça les gens gagneraient quelques centimes sur le panier de consommation courante. D'autres disent, alors reprenant un peu la formule de l'intendant d'Harpagon dans l'Avare de Molière, après tout, la situation est un peu difficile, eh bien, il n'y a qu'à faire bonne chère avec peu d'argent. il n'y a qu'à faire un peu plus de sacrifices